Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as laissé cette parole éternelle. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et Seigneur, nous voulons que cette parole sur laquelle nous sommes fondés puisse nous édifier encore ce matin et nous aider à avoir de nouvelles victoires pour toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Je vais commencer une petite série parce que je perçois qu'il y a beaucoup de matière, donc je ne vais pas tout vous donner ce matin, par une lecture de ce livre qui m'a interpellé cet été, qui est écrit par un pasteur de New York. Nous pouvons difficilement admettre qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans ce monde. Vous savez qu'il y a des philosophes qui disent qu'il n'y a pas des choses mauvaises, comme par exemple notre grand philosophe Rousseau. Voilà. Donc il y a des avis partagés, mais je pense que nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a quelque chose de mauvais dans le monde, et nous savons que c'est sûr d'où ça vient. Le christianisme considère que notre plus gros problème est le péché. On est tous d'accord avec ça. Pour beaucoup de gens, cependant, le concept de péché, il y en a qui ont déjà parlé de péché autour d'eux. Non ? Vous n'avez jamais parlé de péché autour de vous ? C'est pour s'associer à cette histoire que je vous lis, qu'on est dans le même bus là. Le concept de péché est injurieux, voire absurde. Bien souvent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que les chrétiens veulent dire par ce terme. Voilà. Donc, ce message et ceux qui suivent, c'est sur le péché, comment dirais-je, sur la redéfinition du péché par rapport à l'identité. Alors, c'est en fait ces deux termes qui sont pas évidents à mener, le péché et l'identité. C'est quoi le péché? C'est quoi l'identité? Alors, pour faire un peu de brainstorming, parce que vous écouterez plus après ça, je vais demander peut-être à Charles de m'aider, si tu veux bien. Comme tu écris bien, parce que moi, j'écris mal. Moi, quand je commence à écrire, j'ai déjà envie d'avoir fini, donc j'écris mal. J'ai trop vite, et c'est pas que je peux pas bien écrire, mais c'est pas mon truc. Voilà. Alors, vous allez dire spontanément ce que vous diriez à quelqu'un, tiens, Faliana, tu parles à un copain de péché. Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi le péché? Si tu avais à lui dire, voilà ce que... Il dit, mais c'est quoi le péché? Tu dis, pas du péché. C'est quoi le péché? Qu'est-ce que tu dirais? Quoi? J'entends rien. Une bêtise. Le péché, c'est une bêtise. C'est ce que tu dis, c'est une bêtise. C'est ça? Ou c'est ce que ton copain va dire? Là, la question que je vous pose, c'est vous, qu'est-ce que vous donneriez comme réponse? C'est parle fort pour qu'il entende aussi. Ce qui est mauvais. C'est quelque chose de mauvais, c'est ça? Bon. Oui.
Quelque chose qui déplaît à Dieu.
Quelque chose qui déplaît à Dieu. Oh, tu peux pas forcément décrire toute la phrase, mais qui déplaît à Dieu, c'est pour garder un petit peu les grandes idées. Est-ce que d'autres... oui, qu'est-ce que tu dirais?
Désobéissance au commandement de Dieu.
Pardon? Manquer le but.
Ce qui nous détourne de Dieu.
Quelqu'un a une autre idée?
Ignorer et ou mépriser Dieu.
Alors, pardon. Ignorer ou mépriser Dieu. D'autres ont manqué la cible. Bon, manquer but ou cible. Tu peux mettre cible derrière but. Ça pourrait pas remplir le tableau. Vous, en situation, voilà. Comment vous expliqueriez à votre interlocuteur? quelque chose qui cause du tort, qui cause. D'accord. Une action qui cause du tort. Ou à soi, etc. Voilà. Vous pouvez lire le tableau. Si vous avez une autre idée, vous la rajoutez à celle qui vient d'être mise sur le tableau. Quelqu'un d'autre a encore une autre, un autre énoncé à donner sur le péché ? Faire du mal. Ou faire du tort, faire du mal, bon, c'est un peu la même chose. Qui n'est pas dans la vérité. Donc le péché qui n'est pas dans la vérité. Alors l'idée de la volonté de Dieu, donc en dehors de la volonté de Dieu. Alors je vous rassure, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises réponses. Hein. Toutes les réponses sont bonnes. Enfin, je vois que tout ça c'est bon. C'est pour montrer que les péchés sont assez variés. Donc moi ce que je vais aborder, c'est probablement quelque chose qui n'est pas sur le tableau. Je n'ai pas encore regardé tout. Mais c'est aussi pour aider, vous aider dans votre témoignage à être plus pertinent par rapport à certaines questions qui vous sont posées.
Le mensonge, l'arrogance. Le mensonge et l'arrogance.
Transgression, c'est peut-être pas le mot transgression qu'on a mis, mais on a mis désobéissance. Ouais. Bon, c'est des synonymes. Hein. On va pas prendre tous les synonymes, mais c'est les idées qui sont importantes. Oui. Oui.
Volonté de détourner une situation pour son intérêt. Oui.
Donc là, c'est déjà un peu plus complexe, c'est bien. Volonté de détourner pour chercher son intérêt, c'est ça. Voilà. L'orgueil. L'orgueil.
C'est mortel, en quelque sorte, ça conduit à la mort.
Vous voyez, vous êtes en train de faire de l'apologétique. Défendre votre foi, c'est ça. Vous défendez la foi. Oui ?
On commence par dire d'abord, on entre en matière, faire ce qui n'est pas bien. Et après, je m'adapte selon ce que le Seigneur met dans mon cœur, selon la personne que j'ai en face de moi. C'est d'abord faire ce qui n'est pas
bien. Oui, donc c'est pas une réponse sur le péché, c'est simplement tu t'adaptes. Faire ce qui n'est pas bien. D'accord, faire ce qui n'est pas bien. Pardon ? Ah ! Faire un mauvais choix. Très bien. Oui ? Qui nous éloigne de Dieu. Qui nous éloigne de Dieu. Elsa ? Non ? J'ai senti une main qui bougeait. Ah. Vous avez épuisé vos registres de défense de la foi ? Oui ? Agir selon notre nature, oui.
Ce qui nous salit, qui nous édifie pas, mais qui nous salit. D'accord.
Ce qui nous salit, contraire d'édification, qui nous dégrade, quoi. Dégrade et salit, ouais. Ok. Bon, on va pas continuer. Donc, ce qui est mauvais, ce qui déplaît à Dieu, une désobéissance, manquer le but, se détourner. Ignorer, mépriser Dieu, action qui cause du tort, qui n'est pas dans la vérité, en dehors de la volonté de Dieu, volonté détournée de chercher son intérêt, faire ce qui n'est pas bien, faire le mauvais choix, quelque chose qui nous éloigne, faire quelque chose qui nous salit. Super. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Ce que je propose dans cet exposé, dans cette prédication et celles qui vont suivre, c'est de compléter un petit peu cette compréhension qui souvent aborde la question morale, c'est-à-dire de faire le bien, de faire le mal. Hein. Faire le péché, c'est faire mal, ou une action qui est dégradante, ou une action, etc. Or, ce que je vais vous amener un petit peu à comprendre, c'est quelle est la relation du péché avec l'identité ? Quelle est mon identité ? Donc, on a donné une réponse. C'est Sunit, je crois qu'il l'a donné. Je ne sais plus où tu es là. Quelque chose. Où c'est que tu es intervenu là ? Voilà. L'aspect de l'intérêt, son intérêt. Bon, c'était un peu plus élaboré comme réponse, mais justement, ça va dans le sens d'impliquer notre identité. L'auteur de cette réflexion, donc de ce pasteur, dit « Nombreux sont ceux qui ont le sentiment que la doctrine chrétienne du péché jette une ombre sinistre et pessimiste sur la nature humaine. » En tout cas, c'est ceux qui critiquent le christianisme qui disent ça. Ils disent « Ouais, le péché, voilà, c'est très négatif. C'est négatif de voir l'humanité comme ça, de voir l'homme comme ça. » Or, l'auteur de ce livre dit « C'est tout à fait le contraire. » C'est tout à fait le contraire. Il est dit « Au début de mon ministère, un jeune homme que sa femme venait de quitter est venu me voir. Il était en colère à cause de ce qu'elle avait fait. Il se sentait coupable de ses propres défauts. Par-dessus tout, de ses propres défauts et abattu face à cette situation. Je lui ai dit qu'il avait besoin par-dessus tout de trouver l'espoir. Il m'a immédiatement approuvé et m'a demandé comment y parvenir. Aussi gentiment que possible, je lui ai répondu que je pouvais lui faire part d'une bonne nouvelle, à savoir qu'il était pécheur. » Ouais. Donc la façon d'aborder le péché, ça fait toute la différence. Si on l'aborde avec « tu désobéis, tu déplais à Dieu, tu fais une bêtise, tu manques le but », tout ça c'est vrai. Mais comme le disait le frère, il faut s'adapter à la situation. Aujourd'hui, les gens sont bloqués sur eux-mêmes, sur leur individu, sur mon intérêt, sur mes besoins, sur ma façon de voir, etc. Donc, si vous dites ça d'emblée, vous les bloquez, puisque vous dites bah, « ça ne va pas dans mon intérêt ». Or là, le pasteur lui a dit, cet homme qui a perdu sa femme, enfin, qui sa femme est partie, et voilà, elle dit « attends, j'ai un espoir pour toi, c'est que tu es pécheur ». Waouh ! Voyez-vous ? C'est une façon aussi d'interpeller les gens par une question. Jésus, très souvent, quand il évangélisait, hein, entre guillemets, évangélisait, mais il parlait de la bonne nouvelle, il interpellait les gens qui... Waouh, une question, vous voyez. Si vous amenez une réponse tout de suite, vous voyez, tu es pécheur, tu désobéis, tu ceci, tu cela, paf, c'est, ils écoutent plus. Ils disent, voilà, ils me jugent. Parce que si vous dites, maintenant, je t'apporte une parole d'espoir. Et la bonne nouvelle, c'est une parole d'espoir. Voilà, donc apporter une parole d'espoir, là, cette parole, c'est de dire, tu es pécheur. Tu es pécheur. En tant que tel, il n'était pas victime impuissante de pulsions psychologiques ou d'un système social. Et des années plus tard, je suis tombé sur un extrait d'un sermon prononcé par Barbara Taylor. Donc il explique que ce jeune homme, bon, il a réagi correctement en acceptant qu'il était pécheur. Et ça a sauvé sa situation. Et voilà comment ça sauve la situation. Ni le langage de la médecine, ni celui du droit ne remplace de façon adéquate le langage du péché. Contrairement à ce qui se passe dans le domaine médical, nous ne sommes pas entièrement à la merci de nos maladies. Nous pouvons choisir et suivre le processus de la repentance. Voyez-vous, le processus de la repentance, c'est un processus qu'il faut suivre pour obtenir l'espoir d'une vie meilleure. Contrairement à ce qui se passe dans le monde juridique, je crois que, enfin, c'est pas que je crois, Arnaud a parlé la semaine dernière de la justice, du monde juridique, l'essence du péché, donc la base du péché, si vous voulez, ce qui est le centre du péché, l'essence du péché, n'est pas avant tout la violation des lois. J'ai désobéi au commandement, j'ai fait du tort à la volonté de Dieu, etc. Donc je désobéis à la loi. Ce n'est pas ça l'essence du péché. C'est une relation brisée avec Dieu. C'est vrai que, d'ailleurs, Arnaud vous l'a dit, que la base de la justice dans le monde, c'est la loi. Il faut chercher des preuves que la loi a été transgressée, et des preuves absolues, scientifiques, avec l'ADN, avec bon, le maximum de preuves pour que le juge dise, voilà, par rapport à cette loi, vous avez désobéi. C'est la loi. Or, dans le monde, avec Dieu, ce n'est pas la loi. C'est pas la loi qui est à la base. Bien que la loi fait partie de l'ordre dans lequel nous vivons dans le royaume. Mais c'est l'amour. C'est la relation. C'est briser la relation d'amour avec Dieu. C'est ça le concept de justice dans la parole de Dieu. C'est sur la relation avec Dieu, avec les autres et avec l'ensemble du monde créé. Vous savez que l'apôtre Paul va dire dans Colossiens, en Christ, toutes choses sont concentrées et elles se concentrent sur Jésus. C'est-à-dire que ce soit le moindre atome, le moindre molécule de tout ce qui est dans le monde créé se concentre sur Jésus. C'est Jésus qui tient toutes choses dans un ordre, bien sûr, avec des lois. Mais la justice ne se fait pas par rapport à la loi, se fait par rapport à la relation brisée avec Dieu, avec les autres, avec l'ordre. Tous les péchés sont des tentatives pour remplir des vides, a écrit Simone Veil. Comme, alors voilà ce qu'elle a écrit. Comme nous ne pouvons pas supporter le vide en forme de Dieu qui se trouve en nous, nous essayons de le bourrer de toutes sortes de choses, mais seul Dieu peut le remplir. Et ce vide en forme de Dieu. C'est vrai que Dieu a créé toutes choses, visibles, invisibles, matérielles, spirituelles, immatérielles. Enfin, tout ce qui est créé en Dieu. Et tout doit se centrer sur Dieu et sur Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et si on n'est pas centré sur dans cette relation, eh bien, on est dans le péché. C'est-à-dire qu'on est exclu de cet ordre et on souffre. Voyez-vous, la vision du péché, c'est cette relation brisée, cette rupture avec l'ensemble de cet ordre qui se manifeste dans une relation. Alors, la relation dans le monde matériel, c'est la loi. Donc aujourd'hui, on peut faire des choses fantastiques en technologie grâce au respect des lois. Mais dans l'Église, c'est le respect des relations qui rétablit l'ordre que Dieu a voulu créer. Et ça se fait par l'amour. Et c'est pour ça que Jésus, Jean a écrit cet épilogue, donc à la fin de l'évangile, il a rajouté ça, en parlant de l'amour entre Jésus et ses disciples. Et c'est ça le fondement du péché, c'est de rétablir la relation brisée pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Parce que le péché, il a un pouvoir sur nous tant que cette relation n'est pas rétabli. Quand la relation est rétablie, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Dis-le à ton voisin. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi en Jésus. Hein? Dis-le à ton voisin. Il n'a plus de pouvoir sur nous en Jésus. Il n'existe plus. Voyez-vous, le péché, c'est la rupture d'une relation. Il y en a qui connaissent ici des ruptures de relations, malheureusement. Hein? Parfois très proches, parfois plus lointaines, mais il y a tout le temps des ruptures de relations. Ça, c'est le péché. Ok ? Voyez, l'essence du péché, c'est une rupture de relation. Alors, le problème de la relation, c'est le problème de l'identité. Tu sais qui tu es, Héloïse ? T'es qui ?
L'enfant de Dieu.
Heureusement que Rodrigue n'est pas là. Je m'attendais à une réponse intelligente. Je m'attendais à ce qu'ils me disent. Ah oui, mais je suis fils de, fille de. Voilà. Vous savez, on est dans l'enseignement du royaume de Dieu. Et je ne vous rappelle pas les schémas, le siècle présent, le siècle à venir. On fait partie des deux siècles. Le siècle présent, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on voit, c'est l'humanité présente dans laquelle nous sommes, avec ses défauts, avec le péché, etc. Et il y a le siècle à venir, qui est le royaume de Dieu, qui lui est parfait, qui n'est pas influencé par le péché, qui est exempt de péché, et Dieu a fait une rupture. Et c'est pour ça que les anges mauvais, avec Satan, il a dit « personne là ». Vous allez dans le deuxième ciel, hein, premier ciel, ce n'est que ceux qui sont dans cette relation avec Dieu juste. Donc, dans le deuxième ciel, et voilà, et le troisième... non, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est dans le troisième ciel. Et le premier et le deuxième sont les anges déchus et la terre. Et là, nous avons donc le siècle futur dans lequel nous avons été introduits lorsque nous avons accepté Jésus. Le fait d'accepter Jésus et son sacrifice nous introduit dans un nouveau siècle que nous pouvons vivre en même temps, parallèle avec le siècle présent. Donc nous avons deux identités. Je ne peux pas vous montrer aujourd'hui ma carte d'identité du ciel parce qu'elle m'a été volée en Portugal. Tout est parti en fumée. Il faut que je la refasse. Mais hier, j'ai cherché ma carte d'identité à la mairie. Je l'ai reçue après 3 mois de demande. Ça prend très, très longtemps. Et j'ai ma carte d'identité nationale française. Mais j'ai aussi une autre carte d'identité du ciel. Oui. Donc j'ai deux identités. Donc déjà l'identité est complexe parce qu'elle est double, et puis en plus ton identité physique là sur la terre, je suis pas sûr que tu puisses me dire qui tu es vraiment, parce que c'est quelque chose de complexe. J'ai essayé de mettre mon nez là-dedans, moi qui suis dans la science dure, je connais pas trop les sciences molles. Donc elles sont assez complexes, hein, parce que il y a tellement de théories et de trucs qu'on s'en sort pas, hein. Florence y a essayé aussi, il y a Freud, il y a Lacan, il y a tout le monde, bon, qui a son idée des théories, donc c'est complexe. Mais en gros, là on a les deux siècles, ok, le siècle présent et le siècle à venir. Jésus. Alors on va lire l'identité de Jésus en ouvrant dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et je vais d'abord vous lire ces différents versets qui feront partie du message par la suite. Jésus arrivait sur le territoire de Césarée de Philippe, c'est verset 13, posa cette question aux disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Quelle est mon identité? Moi, le fils de l'homme. C'est déjà important de préciser, moi, le fils de l'homme, pas le fils de Dieu. Voyez-vous? Donc, Jésus se reconnaît dans une identité ici, sur la terre, comme étant le fils de Joseph. Ok? Et Joseph, il est fils de qui? On remonte comme ça à qui? David. Jésus, le fils de David. Vous voyez, il ne crache pas sur son identité terrestre. C'est le fils de l'homme. Nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de respecter notre identité pour que nous restions bien les pieds sur terre. Donc, Jésus, en tant que cette identité qui était connue, hein, tellement bien qu'à Nazareth, il n'a pu faire aucun miracle, parce qu'ils ont dit bah lui, bah c'est le petit gars qu'on a vu en short là, sur les charpentes, là, il faisait les charpentes, c'est le fils de Joseph, et on connaissait ses enfants, ses frères et sœurs et tout ça, vous voyez. Et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas pu croire qu'il était le fils de Dieu, parce qu'ils ont vu, eux, que le fils de l'homme. Et Jésus dit, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Donc il attendait une autre réponse. Et ils répondirent. Oh ben, alors les réponses étaient variées, comme ce matin. Hein, chacun avait son point de vue. Ah, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi ils ont dit Jean-Baptiste, Sylvestre? Parce que? Non, Jean-Baptiste. Pourquoi ils ont dit c'est Jean-Baptiste? C'était pas Jean-Baptiste, c'était Jésus. Pourquoi ils ont dit c'est Jean-Baptiste? Parce que les pasteurs, les disciples, ils ont dit. Bah oui, il y en a qui disent que t'es Jean-Baptiste. Pourquoi ils ont dit ça? Non, non. Élie, c'est après. Ah, il y en a d'autres qui ont dit Élie, oui, oui. Mais Jean-Baptiste? Parce qu'ils n'étaient pas français comme toi. Les Hébreux, ils ont pensé hébraïque. Et la pensée hébraïque, c'est une pensée spirituelle. Vous voyez, nous, on pense que ce qui est sur le plancher des vaches, là. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a des esprits qui reviennent. Ben oui. C'est l'esprit de Jean-Baptiste qui est revenu dans Jésus. Oui. Oui, parce que pour eux, le cosmos, ce qu'on appelle le cosmos, c'est quelque chose où les esprits peuvent aller d'un corps à l'autre, ou des choses comme ça, vous voyez. Oui, c'est très. C'est très lié à la Mésopotamie, hein, l'incarnation. Toutes les religions, Zarathoustra, tout ça, c'est des religions d'incarnation, comme en Chine et tout ça. En Afrique aussi, beaucoup. Chez nous aussi, hein, rassurez-vous, les Bretons, les Celtes, tout ça, la réincarnation. Voilà. Donc, il pensait que cet esprit allait revenir, d'autant plus que c'est un peu biblique, parce qu'il dit que Élie, à la fin des temps, allait revenir. Bon. Mais bon, c'est pas de la réincarnation, je vous rassure, christianisme, mais il y a cette idée de comprendre que, voilà, ils avaient une explication. Mais pourquoi Jésus fait tant de miracles et tout ça? Parce que Jean-Baptiste a été décapité, Dieu n'était pas content, et il a redonné cet esprit à Jésus. Donc, vous voyez, ils ont bien reconnu une nature spirituelle de Jésus, au Fils de l'homme, une nature spirituelle. Nous, on a du mal parce qu'on est français. Enfin, spirituel, on dit, ça n'existe pas. Bon, ce qui est une erreur. Donc ils ont dit Jean-Baptiste, Élie, et pourquoi pas un prophète, hein, qu'est-ce qu'ils ont cité encore? Jérémie, pourquoi pas, Ézéchiel, tout le monde, voilà, et un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de la part de Dieu pour parler de la part de Dieu, un prophète. Jean-Baptiste a parlé de la part de Dieu, il a dit, je vous annonce un chemin, je ne suis pas digne de délier les sandales, mais c'est lui qui va être votre sauveur. Et les prophètes, voilà. Donc ils le prenaient pour un prophète. Et les musulmans, aujourd'hui, ils reconnaissent Jésus comme un prophète. Ok ? Un grand prophète. Ils disent que Mohammed est plus grand parce qu'il est venu plus tard. Après, pour eux, c'est dans le temps qui mettent l'accent sur l'importance. Mais c'est un prophète. Et là, à l'époque, ils disaient, oui, c'est un prophète. Un prophète. Et alors Jésus dit, mais vous, leur dit-il, vous, là les disciples, vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, bah oui, Pierre, c'est toujours le premier qui se lève. Premier partout, premier en classe, paf, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette réponse de Jésus qui dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est une révélation. On ne peut pas devenir chrétien sans révélation. C'est bien de venir à l'église, c'est bien que les églises chrétiennes ouvrent leurs portes, c'est leur vocation. Mais s'il n'y a pas de révélation personnelle dans la vie d'une personne qui vient dans une église, elle reste religieuse. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des églises où il y a des chrétiens de la religion et des chrétiens qui sont selon l'évangile. La religion et l'évangile, c'est deux choses différentes. La religion, c'est relié à, c'est relié à quelque chose, on ne sait pas trop quoi, une entité. Bon, moi avant que je me suis converti, j'étais catholique et j'allais tout le temps avec les aumôniers, j'aimais bien tout ça. Mais j'avais un livre que j'avais fait, où j'avais toute la création, l'univers et tout ça, mais c'était un Dieu impersonnel, on ne pouvait pas le contacter, vous voyez, c'est extraordinaire, on est époustouflé par Dieu et tout ça, moi j'étais fasciné par ça, mais c'est quand il y a un Dieu personnel qui est venu dans ma vie, qui l'a frappé à mon cœur et qui est rentré, c'est là que c'est devenu une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, il faut passer de la religion à la bonne nouvelle, d'être sauvé du péché, c'est le péché. Et là, Pierre, il dit ça. Et Jésus lui dit, mais c'est pas toi, mon petit gars, c'est mon Père qui t'a révélé ça. C'est une révélation. La preuve que c'est une révélation, c'est qu'il ne le savait pas de lui-même. C'est que quelques secondes après, il fait l'œuvre de Satan. Et il donne la révélation de Satan en disant, oh, ça ne t'arrivera pas, Jésus. Non, 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 non. Ce que tu dis là, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus est obligé de dire, arrière de moi, Satan. À Pierre. Qui vient d'avoir la révélation. Vous voyez, la révélation, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient de l'extérieur, qui nous est révélé. Il faut une révélation. Le péché, c'est toujours une révélation. Révéler, révélation que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu, comme on l'a chanté ce matin. Amen. Je vais juste vous donner quelques lignes, vu que l'heure avance. Je ne vais pas parler de la construction de l'identité, mais elle est très complexe, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle commence quand on est bébé. Notre identité, bien sûr, elle commence quand on s'inscrit à la mairie avec le carnet de famille. Voilà, c'est un tel, enfin, c'est Georges. Né d'eux, voilà, machin, etc. Donc, le carnet de famille, vous avez de l'identité au départ. Mais le bébé, lui, il crie, il fait dans ses couches et tout ça. Il ne sait pas qui il est, lui. Bon, les parents le savent. Voyez. Donc, au départ, le bébé, il ne sait rien. Il n'a pas d'identité. Il ne sait pas qui il est. Donc, il est pris en charge par les parents qui l'amènent petit à petit. Et la construction de l'identité se fait petit à petit. Ok ? On reviendra là-dessus, mais ce n'est qu'à l'âge scolaire, par exemple, quand l'enfant arrive à 6 ou 7 ans, qu'il commence à se décentrer de lui pour se centrer sur les autres. Vous voyez, il y a tout un travail d'identité qui se fait. Et jusqu'à la fin de la vie, il y a un problème d'identité. Le quatrième âge ou le troisième âge, je ne sais plus, ou le cinquième âge, parce qu'il y a plusieurs âges maintenant. Voilà. Bah, ils ont des crises. Il y a des crises d'identité. On appelle la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine. Des crises parce que on se sent rejeté. Là, vous voyez, quand on est vieux, on n'a plus la même mobilité, tout ça. Voilà. C'est des crises d'identité. Donc, vous voyez que l'identité naturelle, ici, elle est très fragile. Fragile. Il semblerait que Jésus n'ait pas eu de crise d'adolescence. À 13 ans, vous savez qu'à 13 ans, c'était la fin de l'adolescence pour rentrer dans le monde adulte. Effectivement, il a fait un sale coup à ses parents. Hein ? Tu te rappelles, Franz, ce qu'il a fait ? C'est pas bien, quand même. Hein, hein, Josué ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? C'est pas bien, quand même. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Il n'a pas prévenu ses parents de ce qu'il a fait. Il aurait dû avoir une fessée. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Voilà. Et oui, il n'a pas dit à ses parents qu'il allait à la synagogue. Mais ses parents se sont fait du mauvais sang. Maintenant, la caravane est partie, tout le monde est parti. Bon, bah, ils ont dit qu'il joue avec les copains, on va voir les copains. Vous avez vu Jésus, Jésus? Mais non, on n'a pas vu Jésus. Mais où est-ce qu'il est? Mais quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, j'appelle SOS, ah ben non, ça marche pas. voilà, Tom Tom, non, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Et pendant 3 jours, ils se sont fait du mauvais sang pour savoir où était Jésus. 3 jours, c'est ça? Ben, il était à la synagogue. Et quand ils l'ont retrouvé, finalement, il y a des pistes. Il y a un petit malin qui dit, oui, je l'ai vu. Hein. Il est rentré dans la synagogue, là, allez-y. Et quand ils ont dit, Jésus, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais ils se rendent pas compte? Nous, tes parents, on est responsables. Hein, on est responsables de ta vie. C'est quoi ce truc-là? Mais il dit, vous savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Ah bon, t'as un autre père? Choc? Non, pas choc, parce que Marie gardait ça dans son cœur. Mais vous voyez, double identité. Donc, en fait, il savait bien qu'il était le fils de Joseph. Il leur a pas dit, non, non, attendez, c'est fini. Là, maintenant, je reste au temple, rentre chez vous. Non, non. Et non, il a joué le jeu. Et il était fils de l'homme. Okay. Et jusqu'à la fin, il a pris soin de sa mère. Jusqu'à la fin. Alors, il est un exemple. Mais il était aussi fils de Dieu. Et parfait. La seule différence entre Jésus, qui a une identité spirituelle, une identité humaine, c'est que lui, il est parfait. Nous, toi, moi, on a une identité humaine qui est fragile. Et une identité spirituelle qui est quoi? Fragile. Pourquoi elle est fragile? Yves. Pourquoi je peux me permettre de dire que notre identité spirituelle est fragile? Pardon? Non? Je veux entendre un mot. Un mot. Pardon ? Comment, Marie, tu es devenue ton identité spirituelle en Christ ? Par la foi. Dis-le, par là. Par là. La foi. C'est la foi, qui, par l'obéissance de la foi, que nous sommes chrétiens. Alors, nous ne sommes pas chrétiens parce que, voilà, il y a une baguette magique qui est venue, t'es chrétien, t'es pas chrétien, t'es chrétien, t'es pas chrétien. Non, c'est la foi. Mais est-ce que Hélène, ta foi est à 100% tous les jours, chaque seconde de ta vie, toute ta vie? Oui, non, oui ou non? Non, bon, elle est honnête. Elle dit non. Ça veut dire qu'on est fragile. Voyez ? Notre identité spirituelle est fragile parce qu'elle repose sur la foi. Elle n'est pas fragile pour elle-même, parce qu'elle est solide en Christ, mais elle est fragile à cause du manque de foi. Et c'est pour ça que Jésus a loué le plus les gens qui venaient en disant « Seigneur, aide-moi, je manque de foi. » C'est ça que le Seigneur veut. Et c'est le contraire de quoi, cette attitude ? De l'orgueil. De l'orgueil. L'orgueil précède la... Toute chute, c'est lié à l'orgueil. La racine, hein. T'as de raison. L'orgueil. Je vais terminer par cette phrase parce que j'ai même pas fait un centième de ce que je vais vous dire ce matin, mais c'est pas grave. Voilà, il faudra revenir, Jean-Claude. Pas que tu partes là. Hein. Alors, non, mais si l'enregistrement marche, tu pourras l'écouter. Alors, perdu dans mes papiers. Oui, j'ai juste une pensée que je veux vous laisser, qui, à mon avis, est importante. C'est quelqu'un qui l'a dit, c'est Ernest Becker, c'est d'origine juive, un juif, qui a écrit The Denial of Death. Il a eu le prix Pulitzer en 1974. C'est le déni de la mort. Et il. Alors, c'est des théories, hein, de l'individu. Enfin, de la construction de la personnalité de l'individu, qui est que il dit les gens ont peur de la mort, mais ils n'osent pas le dire. Donc, à chaque fois, il y a des dénis, etc. Bon. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que depuis tout petit, un enfant a besoin de valeur. Il cherche une valeur. Et cette valeur est tellement puissante, il cherche une valeur pour exister, qui va la déifier, il va l'élever au rang de Dieu, voyez-vous. Et c'est d'où là viennent des idoles. Le déifier, il va mettre toute sa passion et toute l'intensité du culte et de la dévotion, même si nous nous estimons profondément irreligieux, c'est comme ça que se construit la personnalité. Et il prétend que c'est lié à une signification cosmique. C'est-à-dire que c'est tellement puissant, donc cette construction de l'identité, si elle n'est pas fondée en Dieu, elle est tellement forte que ça devient un culte, ça devient une idole. Et c'est là-dessus que se greffe l'orgueil et qui nous fait chuter régulièrement quand on n'est pas guéri dans notre identité. Parce que notre identité est beaucoup blessée, hein, dans la vie. Parce que les parents ne sont pas parfaits. Il y a des parents qui sont parfaits ici, levez la main, que je vous rencontre à la fin. J'ai vu des mains qui se rebaissaient. Voilà. On n'est pas parfait. Mais il y en a qui sont moins parfaits que d'autres. Donc, ils blessent plus que d'autres. Et ces blessures font partie de notre identité. Et il faut guérir. C'est pour ça que dans l'Église, nous, on pense qu'il y a trois ministères qui sont importants, en dehors, bien sûr, le ministère sacerdotaux, etc., qui sont le ministère des cours de disciples, devenir disciples, des cours de délivrance, le TQP, et des cours de relations d'aide, c'est-à-dire l'aide à la relation, si vous voulez, pour rétablir des relations brisées qui font partie de notre identité nécessaire avec les autres frères et sœurs. Un autre penseur, Libianski, qui est un Nantais, qui dit que l'investissement, ce qu'on appelle narcissique, c'est-à-dire le besoin de développer son identité, est basé sur la construction d'un idéal du moi dans la relation aux autres, principalement regard des parents. Les enfants veulent plaire aux parents. Donc les études de psychologie montrent que la composante affective de l'identité, donc l'émotion, l'estime de soi, est caractérisée par une tendance systématique à l'autovalorisation. On s'autovalorise. Pour être sûr d'être accepté, on veut être mieux encore que ce qu'on est. Nous déformons nos souvenirs, nous adaptons nos jugements pour qu'ils nous soient favorables. De manière systématique, nous tendons à surestimer notre rôle dans les tâches collectives. Nous rejetons les échecs en les attribuant aux autres, alors que nous nous sentons responsables des réussites. Nous sélectionnons les informations qui vont plutôt dans le sens de notre conception du monde. Bref, nous organisons le monde pour avoir le beau rôle. C'est l'orgueil. Mais c'est comme ça que se construit notre personnalité dans le cadre de la chute. Le Seigneur a prévu la rédemption, il a la nouvelle nature, mais par la foi nous pouvons le vivre. Mais nous avons notre ancienne nature. Et si les choses ne sont pas réglées, si les blessures ne sont pas réglées, si la relation n'est pas rétablie avec tous ceux avec lesquels nous avons des différends, ça nous écartèle, vous voyez. Et le péché se greffe là-dessus. Amen. On va s'arrêter là, mais il y a de l'espoir, hein, parce que l'espoir, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché. Et maintenant, nous pouvons avoir l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est le sens de ces prédications que je vais vous apporter. Comment devenir meilleur? Il y en a qui veulent devenir meilleur ici? Que je sache si je continue ma prédication. Hein. Parce que C.S. Lewis, le plus grand penseur théologien du XXe siècle, a dit: un chrétien, s'il ne devient pas meilleur, il devient... Ah, vous le connaissez? Ah bah oui, vous avez vu Narnia. Vous avez vu Narnia? Ah, parce que je l'ai déjà dit. Alors, ça n'a pas de légitimité, c'est moi. Non, mais C.S. Lewis, effectivement, il a vu, et tous les pasteurs le voient, un chrétien, s'il est triste, c'est un triste chrétien. Mais il n'y a pas de quoi être triste. Il y a une bonne nouvelle. Tu crois la bonne nouvelle? Amen. Donc tu es joyeux. Il a toujours le sourire. C'est les prédicateurs, c'est comme ça. Ils vont vers les gens qui ont le sourire. Je ne sais pas pourquoi. Ça attire. Hein. Il m'attire là parce que... Là, c'est formidable ça. Mais ça encourage aussi à prêcher. Vous voyez? Et voilà, Jacques-Henri, il est toujours sourire. Formidable ça. Super. Un chrétien, s'il ne devient pas meilleur, il devient pire. Ça, c'est le challenge du chrétien. Nous avons un trésor inestimable qui nous a été donné, et notre rôle, c'est de le laisser là-haut, de ne pas l'abaisser, de ne pas le profaner, ce qu'on appelle profaner, c'est-à-dire le ramener aux gens au rang séculier, quoi, au rang du siècle présent. Il faut laisser ce trésor hein, là-haut, et pas le gâcher, de dire: Seigneur, oui, je veux devenir meilleur, parce que sinon je deviens pire. Celui qui n'avance pas, il recule. Et c'est ça le disciple. Et Jésus, il n'a jamais forcé personne. Quand le jeune homme riche est venu vers lui, et le jeune homme riche a dit: oui, mais tu sais, Jésus, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus a dit: bah, écoute, voilà, tu fais ça. Bah, je le fais. Bah, c'est bien, c'est bien. Tu fais ça, bah, je le fais. Waouh! Il croyait impressionner Jésus. Jésus dit: mais tu fais ça, c'est marqué dans la parole. Je le fais, Jésus. Waouh! Il était impressionné, Jésus. Hein? Non. Jésus est impressionné par personne. Simplement, il voyait son cœur. Il voyait qu'il y avait quelque chose qu'il ne lâcherait pas. C'était quoi? Non, non. L'amour. C'est pas la richesse. Parce que si vous dites ça, vous tombez. Alors, si vous avez un peu communiste en face, alors là. Quoi? La richesse? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. La richesse, lutte des classes. Non, bah oui. Dieu, il n'est pas contre la richesse. Allô? Parce que sinon, Dieu, il faudrait qu'on le cloue au bois, parce que toute la richesse est à lui. Vous vous rendez compte? S'il était contre la richesse, il serait contre lui-même. Non, ne tombons pas dans ces pièges-là. Et l'amour de la richesse. Il a vu l'amour de la richesse. Il a dit: vends tout ce que tu as et suis-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est parti. Mais Jésus lui a pas couru après. Hein. Jésus n'a pas dit non, reste là, je me suis mal exprimé. Non, je m'excuse, j'ai utilisé les mauvais mots. Non, il a utilisé les bons mots. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Voilà. On est obligé de se déterminer. Notre identité doit plier le genou devant Dieu. Et il y a dernière chose, là je dépasse l'heure, mais dernière chose que j'aurais à vous dire. Il y a un jour, un philosophe, ou je ne sais plus, un penseur, qui est allé dans une réunion d'alcooliques anonymes, vous savez. Vous connaissez les alcooliques anonymes? C'est la bleue, là, non, je crois bleue. C'est pas la même chose. Même principe, mais c'est pas la même chose. Alors, Andrew Dambelko, bon, c'est un Américain, hein, professeur de sciences humaines à l'Université de Columbia. Il y a quelques années, il a effectué des recherches sur les alcooliques anonymes. Il a été amené à assister à des réunions de cette association sur tout le territoire américain. Et un samedi matin, dans le sous-sol de l'église de New York, il a écouté un jeune homme aux vêtements parfaitement repassés parler de ses problèmes. D'après son récit, il était absolument irréprochable. Toutes ses erreurs étaient dues à l'injustice et aux trahisons des autres. Il détaillait la façon dont il allait se venger de tous ceux qui lui avaient causé du tort. Chacun de ses gestes donnait l'impression que son orgueil avait été gravement blessé. Il apparaissait clairement que ce jeune homme était englué dans le besoin de se justifier et que sa justification ne faisait qu'empirer tant qu'il n'admettait pas cet état de fait. Et tandis qu'il parlait, il y avait un noir à côté de lui qui était assis comme ça. Ils écoutaient le jeune homme et puis se tournent vers lui et voilà ce qu'il lui dit. Il dit, moi aussi, je ressentais ce genre de choses avant de réussir à avoir une mauvaise opinion de moi-même. Tant qu'on a une bonne opinion de soi, on ne peut pas être délivré du péché. On ne peut pas se repentir. C'est pas possible. Le repentance, ça reste un mot, ça reste un processus théorique, abstrait, vague et tout ça. C'est quand on accepte qu'on est mauvais, qu'on a des cochons dans la cave, auxquels on met du parfum pour pas que les invités le sentent quand ils viennent chez nous. Donc on met du parfum avant qu'ils viennent, surtout. Hein, pour, voilà. J'ai dit ça parce qu'il y a un livre qui est écrit là-dessus, les cochons dans le sous-sol. On a tous des cochons. Alors, la seule chose, c'est est-ce que j'accepte de montrer mes cochons ou est-ce que je veux les planquer? C'est toute la question est là. Et tant que cette question, nous n'avons pas répondu oui Seigneur, j'ai des cochons et je les ai bien élevés parce qu'ils ont fait des petits et que voilà, ils vont bien, comme le gadarénien qui avait des cochons, il avait droit d'avoir des cochons en Israël? Qu'est-ce qu'ils faisaient là les cochons? C'était des moutons, non? Jésus, il a chassé des cochons. C'est curieux ça. Israël. Enfin bon, ça c'est en passant. Voilà. Ma mère, elle était étonnée des juifs, parce qu'en Alsace, il y avait des juifs, des protestants et des catholiques. Il y avait tout. Les évangéliques, on était poursuivis avec des fourches. Hein. Quand moi j'étais petit, on tuait les évangéliques avec des fourches. Enfin, on les chassait. Bon. Non, mais il y a eu des morts à Vasselonne. Hein. Tout ça pour dire que Les juifs, quand ils allaient dans les boucheries, et ma mère était derrière les juifs, et dit, donnez-moi ça, monsieur le boucher. Dit, oui, du cochon. Non, dites pas le mot. Mais ils achetaient du cochon. Mais il ne fallait pas dire le mot. Vous voyez ? Donc, l'âme humaine est très subtile pour contourner les choses. Hein. Et nous, notre âme est très subtile pour contourner la parole de Dieu. Ne faisons pas cela, ne soyons pas pharisiens. Acceptons que nous sommes mauvais, parce que c'est une réalité, mais que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Amen. Et mettons l'accent sur la foi pour renforcer notre identité spirituelle et diminuons, je ne veux pas dire annuler, nous devons rester humains, nous devons avoir des attaches, nous devons avoir une identité humaine, nous devons avoir une attitude sur cette terre, mais guéris. Guéri des blessures, guéri du passé, guéri de toutes sortes de choses pour que nos relations soient saines, justes et bonnes. Amen. Comme Jésus les a eues à son époque. Amen. Jésus nous a donné un exemple de bonne relation avec ses disciples. Il paraît que les films qui sont faits, enfin ça c'est Michel qui parle, sont pas très bien. Moi je veux voir les films de Jésus, mais il y en a un qui est bien, je crois que tu as vu, parce qu'il présente Jésus à 18 ans en train de jouer du ballon avec ses disciples. Vous voyez, on voit plutôt quelqu'un de barbu, sage, machin, etc. Voilà. C'est ça. Il y a deux qui sont très bien. Allez la voir. Qui donne une image de Jésus, plus juste de la parole, parce qu'il joue avec de l'eau, avec ses disciples. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était intégré dans sa société. Il n'était pas out. Il était in. Alors soyez in, mais sainement. Sainement. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions afin que cette nouvelle année puisse être une année, Seigneur, où notre identité puisse être restaurée. Notre identité personnelle, terrestre, Seigneur, comme notre identité spirituelle par la foi. Que tu fasses grandir la foi en nous, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, et que tu nous donnes vraiment, Seigneur, d'être fondés dans la foi, mais aussi que nous puissions passer par le torrent qui nous purifie, par la relation d'aide, par le discipulat, Seigneur, pour que nous soyons plus forts cette année que l'année dernière et que nous puissions être des témoins de ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions.